Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut à tous.
Podcast freestyle. Pourquoi ? Parce que l'actualité cette semaine n'était pas forcément extraordinaire, voyez-vous. Et on s'est dit avec ATH que ça nous arrivait régulièrement d'avoir des discussions très intéressantes, par exemple par téléphone, etc. Et que pourquoi pas, par exemple, lancer un podcast en mode antenne libre, si vous voulez, où on pourrait discuter d'un sujet en particulier. Alors, en gros, l'idée, si vous voulez, c'est que on prend une idée générale et on voit où ça va nous mener.
Exactement.
Tout simplement. Par contre, avant de commencer cet épisode pilote, je voulais quand même évoquer une actualité, parce que c'est la seule qui a retenu mon attention cette semaine, à savoir Good Old Games qui lance son Early Access à lui. Pourquoi je voulais l'évoquer? Parce que je pense que c'est un progrès pour le consommateur, à savoir que non seulement, comme d'habitude, ce sera DRM free, mais en plus, et là c'est vachement intéressant, vous aurez 2 semaines pour vous rétracter, sans condition. Et là, j'ai envie de dire bravo. Bravo Good Old Games. C'est un pas dans la bonne direction. Je sais qu'avec Good Old Games, il y a une sélection à l'entrée. Hein. C'est pas comme Steam où c'est la fête du slip, quoi. Et que donc, voilà, il y aura quand même un suivi de GOG, etc. Donc, j'avais envie d'encourager cette initiative que, ma foi, je trouve très bien. Et enfin, une alternative au Early Access de Steam.
Ouais, bah en fait, Steam, c'est 2 heures de jeu, je crois. Et après, si t'as joué plus de 2 heures, tu peux plus te faire rembourser. Mais après, vis-à-vis des développeurs de jeux, je pense que ça pourra mettre certains dans l'embarras avec des jeux qui ont des expériences assez courtes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui m'empêcherait de me faire rembourser? Après, moi, enfin, j'applaudis le geste de la part de Good Old Game, mais c'est juste que je pense qu'il y aura beaucoup de développeurs qui vont râler parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont abuser de ce système-là, quoi.
Bon, ATH, tu vas ouvrir cet épisode pilote, n'est-ce pas? Quel est le sujet que tu voulais évoquer cette semaine?
Bah alors, pour commencer cet épisode pilote, je me suis dit que ça serait intéressant de parler des choses qui nous saoulent, nous agacent, qu'on ne peut plus voir dans les jeux vidéo. Ce genre de choses que, quand tu le vois, tu te dis « non, c'est pas possible », même si tu apprécies l'expérience de jeu globale, de voir ce genre d'éléments qui apparaît, ou bien des choses qui te dérangent dans le jeu, que ça soit par son gameplay, son histoire, ou bien d'autres éléments qu'on va pouvoir développer dans la suite du podcast, que tu n'aimerais bien tout simplement plus voir, et c'est des choses bien sûr qui sont très personnelles. Rien ne vous empêche dans le forum de dire si vous êtes d'accord avec nous ou pas, et puis aussi de nous expliquer ce qui vous saoule par rapport à notre conversation.
Donc je vais commencer avec quelque chose qui pour le coup n'a rien à voir avec le gameplay, l'histoire ou je ne sais quoi, c'est les DRM. Alors pourquoi j'ai voulu commencer par ça? Il faut savoir qu'avant de débuter ce podcast, j'ai eu un débat enflammé sur Canard PC où on parlait des DRM parce qu'il y a ce pauvre petit développeur, monsieur Jonathan Blow, qui s'est plaint du piratage sur Twitter. Alors après, entendons bien, c'est parfaitement son droit. Hein. Ce qui me gêne beaucoup, par contre, c'est que derrière, ça parle de mettre des DRM, tout ça, enfin bref. Ça, pour moi, c'est plus possible aujourd'hui, et il y avait un exemple qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Un jeu que, franchement, auquel j'avais vraiment envie de jouer, à savoir Diablo 3. Contrairement à beaucoup, pendant sa bêta, enfin, j'ai vraiment accroché au jeu, quoi, j'étais à fond dessus. Et, c'est un jeu que je n'ai jamais acheté. Pourquoi? Parce que, connexion en ligne permanente, tout ça, enfin, si vous voulez, moi, je suis essentiellement un joueur solo. Et par ailleurs, je suis un joueur qui pense que, non, je n'achète pas une licence, j'achète un jeu. Et que je possède ce jeu, en fait. Et du coup, quand on me propose un jeu qui m'intéresse essentiellement pour sa partie solo, et qu'on me met un DRM toujours en ligne, n'est-ce pas? Bah, c'est pas possible. Déjà parce que ça pose des problèmes techniques, notamment, tu sais, quand t'as le serveur qui se déconnecte, t'es en train de faire ta partie solo, et là, ah bah, ça marche plus.
ça, c'est vraiment le truc le plus horrible qui peut t'arriver, je pense.
Bon, ça arrive moins quand la phase de lancement est passée, mais on va dire que ça arrive et ça ne devrait pas arriver. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, je considère que c'est mon droit de prendre mon jeu, de le stocker sur mon disque dur, et que dans 10 ans, si je veux, je le ressors, je l'installe et j'y joue. Voilà. Je considère que quand j'achète un jeu, je ne suis pas propriétaire d'une licence, je suis propriétaire du jeu, et j'en fais ce que je veux, et je vous emmerde. Voilà.
ça commence fort. Alors, moi, je vais commencer avec une formule que vous m'avez sans doute beaucoup entendu dire si vous êtes familier des podcasts, c'est la formule Ubisoft. Bon, alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la formule Ubisoft? La formule Ubisoft, c'est-à-dire, on prend un jeu, que ça soit Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed, Et puis, on utilise une formule qui va être implémentée dans bah, quasiment tous leurs open world, c'est-à-dire une map remplie de putains de coffres à ouvrir qui ne servent quasiment à rien, mais si tu veux finir le jeu à peu près à 100% et que t'es collectionneur comme moi, bah t'as quand même envie de le faire. D'ailleurs, ce système-là, je le reproche aussi un peu dans The Witcher 3, où il y a des milliards de coffres disséminés sur la carte, et je pense qu'ils auraient pu en mettre beaucoup beaucoup moins, parce que moi, qui ai voulu finir le jeu dans son ensemble, ça me faisait chier de laisser, si tu veux, une map avec des coffres qui étaient là et que j'avais pas toujours ouvert. Autre chose qui me saoule dans cette formule Ubisoft, c'est à chaque fois pour aller dévoiler un plan de la map, un quartier, t'es obligé de monter sur une putain de tour radio ou bien une colline qui est en surélévation, comme dans Assassin's Creed, vous montez en haut d'une église et vous synchronisez la map. Et ensuite, vous avez les différentes activités qui sont débloquées sur votre map et vous pouvez voir ce qui s'y trouve. Ce genre de choses-là, si tu le fais une fois, ok, c'est joli, tu fais ton saut de la foi, etc. Mais je trouve déjà que de le faire une quarantaine de fois dans le jeu, ça gâche ces moments-là. J'ai un peu l'impression que, si tu veux, d'aller au boulot et de voir la routine qui s'installe. Donc c'est un truc, moi, vraiment, que s'il vous plaît, les développeurs, arrêtez d'implémenter ça dans vos jeux. C'est vrai que ça rajoute de la durée de vie, mais c'est une durée de vie qui est très artificielle et qui n'apporte rien au jeu de base. Là, je parlais d'Ubisoft, mais bon, c'est pas les seuls à le faire, hein. Mais c'est vraiment eux, je pense, qui réutilisent ce système à foison.
Mais si tu veux, la spécificité d'Ubisoft, c'est qu'ils le font vraiment sur des licences qui sont très différentes, quoi. C'est-à-dire que Far Cry, quand même, à la base, c'est pas Assassin's Creed, quoi. Ouais. Et pourtant, on retrouve ces mécaniques-là dans Far Cry. Et ça fait que, on est d'accord que Ubisoft n'est pas le seul éditeur qui sort des jeux chaque année qui proposent tout le temps la même chose, quoi, en gros. Là où, par contre, ils sont assez uniques dans leur genre, c'est que même sur des licences qui sont censées être différentes et proposer une expérience différente, on a le putain de même jeu. Alors certes, dans un cas, t'as la vue à la troisième personne et dans un autre, t'as la vue à la première personne. Mais dans tous les cas, on retrouve exactement les mêmes putains de mécaniques sur des licences différentes. Ce qui crée quand même une lassitude qui est assez compréhensible, quoi.
Moi, j'avais super bien apprécié Far Cry 3, tu vois. Je trouvais cette ambiance dans les îles paradisiaques vraiment superbe, etc. Et j'ai commencé à jouer à Far Cry 4 et j'ai vu qu'il fallait faire encore ce genre de choses, débloquer la map, etc. Et si tu veux, en fait, dans Far Cry 3, j'avais gardé que les bons souvenirs et ça m'était complètement sorti de l'esprit. Et là, j'ai eu un peu cette vision traumatisante de devoir refaire la même chose. Far Cry 4, en fait, c'est un jeu que je fais, mais à une vitesse vraiment, vraiment assez lente, parce que, voilà, ça, au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi.
Est-ce bien raisonnable d'attendre des AAA qui innovent? C'est ça la question que je voulais te poser.
Sans demander la lune à ces éditeurs-là, on peut quand même espérer qu'ils n'ajoutent pas de la durée de vie qui soit totalement artificielle, et en essayant de mettre des choses vraiment plus intéressantes. Si tu veux, dans un jeu vidéo, tu vas pas dire, ah putain, j'ai kiffé Assassin's Creed parce que j'ai ouvert 500 coffres dans la ville, quoi. Donc pour moi, en fait, ce genre de choses-là, enfin, ok, dans les coffres, il y a de l'argent, mais ils pourraient trouver d'autres activités annexes pour faire gagner de l'argent sans avoir à farmer, quoi. Et pour citer The Witcher 3, ce que moi, j'aurais apprécié, par exemple, c'est que on garde le jeu tel quel, et que tu vois, avec toutes ces quêtes secondaires qui sont bien travaillées, la narration qui est faite aussi dans la quête principale, etc., je pense que ça suffisait au jeu de base pour ne pas avoir à mettre, si tu veux, autant de coffres. Et que, par exemple, quand tu vas dans une grotte, etc., explorer un temple, ok, là, dans ce cas-là, tu peux trouver un trésor, comme dans beaucoup de jeux, ça m'aurait pas dérangé. En fait, je demande juste qu'ils en mettent beaucoup, beaucoup moins. C'est tout ce que je veux. C'est pas qu'ils, si tu veux, qu'ils annulent le système. Mais que quand tu trouves un coffre, si tu veux, t'as cet effet où t'es un peu content de tomber sur quelque chose de rare ou d'unique.
Ouais, moi, tu sais, c'est ce qui m'avait vachement déçu à l'époque sur Final Fantasy XII. Je me rappelle, à un moment donné, t'arrives dans un désert et il y a un temple juste derrière où tu rentres. Et là, dans ce temple, tu arrives, t'as un espèce de coffre qui est sur un immense piédestal. Tu dis, oh putain, j'ai découvert un truc de fou et tout. Et là, tu ouvres le coffre et, je ne sais pas si vous vous rappelez, le loot, il est aléatoire. Et t'avais un putain de loot tout pourri de merde. En tout cas, c'est moi, c'est ce que j'ai récupéré, tu vois. Et ça, c'est un tue-l'amour, putain. Mais s'il vous plaît, enfin, l'aléatoire, moi, je veux bien. Mais en fait, pour moi, l'aléatoire, c'est intéressant dans un jeu qui est conçu aléatoirement. Un jeu sandbox, avec un peu de procédural aussi. Enfin, c'est intéressant dans ce cas-là. Mais dans un jeu comme ça, où les mecs se sont cassés le cul à te construire un super temple et tout, avec une mise en scène, avec de la lumière, etc. T'as le coffre qui trône au milieu de la salle, je sais pas, non, mais tu mets pas du loot aléatoire là-dedans. Enfin, c'est pas possible, c'est un tue-l'amour, faut pas faire ça, les gens. Il ne faut surtout pas faire ça.
Et là, tu ouvres le coffre, tu trouves une pomme.
Mais c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Alors, encore, t'aurais un truc genre, tu trouves une pomme et t'as un mot à côté du mec, qui a pillé le coffre et qui soude ta gueule. Ça, tu vois, ça serait drôle, par contre.
Ah oui, ça aurait été excellent. Un petit troll de la part des développeurs, ouais. Mais,
mais imagine, par exemple, tu vois, tu mets un loot aléatoire, imaginons, et en cas de loot tout pourri, ben, à ce moment-là, tu mets un mot qui saute ta gueule, tu vois.
Ouais, ouais, ça aurait pu être une petite joke sympa de la part des développeurs. Mais, justement, là, t'as un très bon exemple d'un truc qui m'a fait hurler, à l'époque, dans Final Fantasy XII. De mémoire, je vais dire ça, mais il me semble qu'il y a trois coffres qu'il ne faut surtout pas ouvrir, parce que si tu les ouvres, en fait, bah, tu pourras pas avoir, l'arme ultime de ton personnage à la fin du jeu. Et il faut les ouvrir que à un certain moment du scénario. Et si tu les ouvres avant, bah en fait t'es baisé. Et le problème c'est que bah sur ta route principale, et bah c'est foutu coffre, tu les vois. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas les ouvrir naturellement. Et en fait, il ne faut pas le faire. Et le pire, enfin, ce qui aurait été sympa, c'est que s'il y aurait eu une énigme en te disant, suivant, en te faisant comprendre que voilà, si il faut pas ouvrir le coffre, si t'as pas récupéré les trois médaillons de la lumière ou je sais pas quoi, une connerie dans le genre, ok, ou bien un truc plus subtil si tu veux. Mais quelque chose où il y a rien qui t'a indiqué, à part si t'as pas la soluce officielle du guide du jeu, bah tu ne peux pas le savoir autrement. Et ça, c'est pour moi un tue-l'amour par rapport au jeu.
Du coup, est-ce que t'as d'autres trucs qui te font râler, toi?
Ah oui, il y a beaucoup de choses qui me font râler. Par exemple, moi, ça c'est un truc que je pense que toi et moi, on va pas être d'accord sur ce point-là. C'est les personnages qu'on incarne qui ne parlent pas.
Ah, ça c'est sûr qu'on va pas être d'accord du tout, mon cher.
Moi, en fait, je vais prendre un exemple, c'est BioShock 1 et BioShock 3. BioShock 1, j'arrivais pas à m'impliquer dans le jeu. Parce que mon personnage ne disait jamais rien. Je savais pas vraiment ce qu'il pensait à ce moment-là. Et par contre, j'ai beaucoup plus apprécié BioShock 3 par rapport au premier. Parce que justement, le personnage qu'on incarne, il a une histoire, il a des motivations claires et nettes et précises. Alors que là, j'ai l'impression que dans le premier BioShock, même si, voilà, le twist final est absolument superbe, bah, il y a ce manque d'attache qui me fait que moi, je suis vraiment en recul par rapport à ça.
Alors, là où je suis pas d'accord avec toi, enfin, je vais nuancer mon discours. Disons que il y a deux cas de figure pour moi. Il y a le cas de figure Xenoblade. C'est-à-dire que tu as un personnage muet alors que tous les autres parlent, avec des vraies voix. Et ça, effectivement, je suis d'accord, c'est un tue-l'amour. Parce que c'est pas cohérent, si tu veux. Enfin, t'entends tout le monde qui parle, t'entends les voix de tout le monde, et toi, t'as pas de voix. Pourquoi? Et tu as le cas, pour moi, des jeux écrits. Où là, moi, ça me pose pas de problème, en fait. Parce que moi, justement, dans ces cas-là, du moment que tu me proposes certains choix, si tu veux, il y a un côté littéraire où je me projette totalement dans le personnage, quoi. Et du coup, ça ne me gêne absolument pas. Et même, parfois, c'est un argument, quoi, j'ai envie de dire, pour moi. Parce que, justement, c'est un personnage qui te laisse la place de te projeter dedans. Mais après, effectivement, je suis d'accord, il faut que ça soit bien fait et il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment.
Ouais, par exemple, dans The Legend of Zelda, bah Link, c'est un personnage qui ne parle jamais. Par rapport aux autres personnages, il n'est pas représenté comme un sourd muet, mais c'est un personnage qui ne parle jamais. Mais là, ça me dérange pas parce que, en fait, les autres personnages ne sont pas doublés. Ce sont des bulles qui apparaissent et qui te dévoilent, en fait, l'intrigue, etc. Et si tu veux, comme aucun personnage n'a vraiment de voix, bah ça me dérange pas trop. Après, moi, par exemple, un jeu qui te laisse le choix, je préfère, par exemple, Shepard dans Mass Effect, où le personnage a un dialogue, parle, a une histoire, et puis qui te laisse la possibilité de du choix de dialogue pour orienter la conversation. Moi, je préfère ce genre de système-là par rapport à un Skyrim. Tu vois, Skyrim, j'ai l'impression vraiment de plus jouer une armure sur patte que de jouer vraiment un héros. J'arrive pas à me projeter personnellement dedans, en fait.
Ah, peut-être que ça va changer, parce que je crois que ça a changé avec Fallout 4, justement.
Oui, Fallout 4, le personnage qu'on incarne.
Le héros a une voix. Ouais. Mais moi, tu vois, justement, enfin, quand je suis à la première personne, j'ai vraiment du mal avec les persos avec une voix, quoi. La première personne, pour moi, c'est une vue vraiment immersive, quoi, si tu veux. C'est moi qui suis dedans. Mmh. Et la voix, en fait, c'est un élément, si tu veux, qui se trimballe au milieu et qui me rappelle qu'en fait, c'est pas moi. J'ai du mal. Du coup.
Après, j'aimerais bien rebondir aussi sur les jeux qui sont très mal écrits. Je supporte pas du tout, en fait, un jeu où l'histoire est totalement bidon ou prétexte du début à la fin. Ça va te laisser aucun souvenir. T'as l'impression d'avoir déjà vécu ce genre d'histoire des millions de fois. Après, un jeu qui, on va dire, a un scénario classique peut être intéressant si la narration est bien faite. C'est-à-dire que les personnages sont impliqués dans l'histoire, ou bien que, justement, il utilise ses codes de clichés, mais il les détourne, en fait. Quand c'est bien fait, bah, justement, ça amène un peu de diversité et de surprise. Mais un jeu, on te dit, bah voilà, t'es l'élu, tu dois sauver le monde. Tous les personnages que tu rencontres, ils sont plats. La mise en scène est à chier.
Alors, est-ce que tu as un exemple? Parce qu'il va falloir assumer, là.
Bah, si, j'en ai un, là, directement, que je peux citer comme ça de tête. Bah, c'est Skyrim, tu vois. Quand t'arrives et que tu te présentes, par exemple, devant le Jarl, le mec, il te regarde, il est statique, il bouge pas du tout. Enfin, on va croire que je fais de la pub pour The Witcher 3, mais dans The Witcher 3, tu vois...
En même temps, c'est la référence. Enfin, pour moi, en tout cas, hein, je le dis tout de suite, le jeu qui a marqué une progression, si tu veux, dans la mise en scène des personnages, des petites mimiques, etc., c'est The Witcher 3, quoi. Enfin, pour moi, c'est le nouvel étalon du genre. Donc forcément, si tu cites pas celui-là, lequel tu vas citer, tu vois?
Ouais, bah, tu vois, il y a The Witcher 3 et aussi Mass Effect, mais je trouve un peu moins bien fait que par rapport à Witcher 3. C'est-à-dire que dans The Witcher 3, Geralt, quand il s'adresse à un personnage, bah déjà, une chose qui est bien, c'est qu'il regarde dans les yeux. On dirait pas qu'il a un strabisme et qu'il regarde à droite. Et ce qui est cool dedans, c'est que quand il parle à un personnage, et bah, il se déplace, en fait. Il marche, des fois tu vois qu'il est là, il avance, il recule selon la conversation. Genre il prend une petite pause, en même temps il discute, tu vois. Ça c'est quelque chose qui est vraiment bien fait. Alors que par exemple dans Skyrim, j'ai l'impression déjà que tous les dialogues qui sont parlés, c'est du un interlocuteur contre un interlocuteur. Alors que dans The Witcher 3, quand Geralt parle et qu'il y a un groupe, tu vois que chacun ne reste pas là planté comme des piquets. Ils ont chacun des petites mimiques. Enfin tu vois, j'ai l'impression que le monde est vivant et pas que ce sont deux poteaux qui ont une discussion en fait.
Ça, tu vois, c'est intéressant. Par contre, ce que je trouve toujours dommage avec ça, c'est qu'on reste de spectateur, en fait. Je me dis, ça serait cool un jeu, tu vois, où pendant les dialogues, tu pourrais... C'est toi qui t'occuperais de la mise en scène, en gros. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est toi qui irais t'accouder au bar... Enfin, un peu ce qu'avait fait Heavy Rain. Alors, attention, quand je dis ça, c'est pas genre... ah oui, attention, je vais débarrasser la table. Enfin,
c'est si pour avoir une image...
Mais... Ça serait intéressant de faire un truc où tu peux t'occuper de la mise en scène. Et on pourrait aussi imaginer, par exemple, des gameplays où plutôt que d'attendre qu'on te donne le choix de désapprouver ce qu'on te raconte, tel bouton, par exemple, tu pourrais faire une grimace. Et le PNJ réagira à ta grimace, par exemple, s'il est observateur, ce genre de choses. Il y aurait moyen de rajouter des couches de gameplay comme ça sur les phases narratives.
Je suis pas trop d'accord avec toi avec Heavy Rain, parce que en fait, si tu veux, dans Heavy Rain, j'ai plus l'impression que en fait c'est un enclenchement de cinématiques les unes après les autres, puis que t'as un QTE qui apparaît en plein milieu.
Non, mais on est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant dans Heavy Rain, c'est l'interaction. Après, je ne dis pas qu'il y a un gameplay derrière cette interaction, et c'est bien ça le problème. Tu sais, l'autre jour, j'évoquais le fait que, à mon avis, les jeux narratifs actuellement, il y avait pas de gameplay dessus. Et ça, c'est un gros problème que j'ai avec les jeux narratifs, pour le coup, qui s'insère parfaitement dans ce podcast. Le gameplay se résume très souvent à choisir entre A, B ou C. Et si tes choix ont une conséquence, oh là là, mon Dieu, c'est la fête du slip, quoi. Alors que je pense qu'il y aurait moyen d'insérer dans ces jeux des véritables couches de gameplay, quoi. C'est-à-dire que, en faisant certaines actions, tu influences les PNJ qui est en face, etc. Je prends un exemple. Alpha Protocol. Alpha Protocol, c'est un jeu où, fondamentalement, ça ressemble vachement à Mass Effect, à savoir que tu dois choisir entre A, B, C ou D. Une fois que t'as choisi, ça a des conséquences. Sauf que ce qui est intéressant dans Alpha Protocol, c'est que tu as un véritable gameplay par rapport à la psychologie des personnages. C'est-à-dire que tu peux choisir de te la jouer au roleplay, comme dans un Mass Effect. Tu joues le connard, tu joues le gars sympa. Bon, sauf que dans Alpha Protocol, déjà, c'est plus nuancé que dans Mass Effect. À savoir que dans Mass Effect, c'est vraiment bon, neutre, méchant.
Avec des couleurs, pour être sûr que tu te trompes pas, quoi.
Voilà. Alors que dans Alpha Protocol, c'est plus des connards, sérieux. Enfin, tu vois, ce genre de truc. C'est plus des attitudes que vraiment de choisir ton alignement, quoi, si tu veux. Et ça, ça a une véritable incidence sur le gameplay. Pourquoi ? Parce que les personnages en face de toi ont une personnalité. C'est-à-dire que le mec qui a un balai enfoncé dans le cul, lui, il va pas apprécier que tu déconnes. Et du coup, il sera beaucoup moins coopératif avec toi, par exemple. C'est une véritable couche de gameplay dans un jeu narratif. À savoir que non, les mecs qui sont en face de toi, ce ne sont pas juste des pantins et tu choisis entre les différentes routes que t'ont proposé les développeurs. ce sont des mecs qui ont une personnalité, et en fonction de ton attitude, ça va avoir un impact sur ta relation avec eux. Ça rajoute le fait que tu vas devoir analyser la personne qui est en face de toi pour comprendre comment elle fonctionne. Ne serait-ce que ça, tu vois, c'est très plaisant, quoi. C'est vraiment du gameplay à l'état pur. Et derrière, tu as le choix, en plus, si tu veux, de rester fidèle à ta personnalité et de te mettre volontairement dans la merde ou d'essayer d'entortiller le mec pour qu'il te donne l'info que tu veux, quoi.
C'est un peu un jeu de séduction dans le jeu, quoi. Enfin, quand je dis séduction, c'est pas forcément dire séduire toutes les petites minettes.
Mais tu vois, ça, par exemple, ça pourrait être intéressant. Un jeu de drague basé sur ça, basé sur l'attitude, je trouverais ça très drôle.
Ouais, mais enfin, dans Alpha Protocol, c'est plus... Tu vas essayer de convaincre ton interlocuteur que t'es avec lui ou bien qu'il fait pas un bon choix, tu vois. Essayer de lire dans son esprit pour...
comprendre comment il fonctionne,
voilà,
quoi.
Et obtenir, en gros, toi, ce que tu veux. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa si c'est développé dans les RPG, comme ça, à monde ouvert, où tu peux avoir des systèmes d'interaction avec les personnages qui ne sont pas faits uniquement que par les réponses. Et justement, on parlait tout à l'heure de Fallout 4. C'est pas un jeu que j'ai fait, mais bon, c'est quand même un jeu que j'ai suivi parce que ça m'intéressait quand même. C'était un gros jeu qui est sorti l'année dernière, en plus de ça, RPG. Mais le problème, c'est que bah déjà, dans Fallout 4, d'après les retours de la plupart des tests, les choix de proposition n'ont aucun impact sur le déroulement du scénario.
C'est un tue-l'amour, ça.
Ah non, mais ça, c'est... Les choix que t'as, c'est oui, oui, peut-être, phrase qui ne dit rien.
Non, en gros, c'est non, mais t'es obligé quand même d'accepter à la fin.
Voilà, et puis, enfin, déjà que Fallout 3... C'est un jeu que j'avais totalement lâché pour toutes les raisons que j'ai pu citer tout à l'heure. Parce que tu vois, encore dans Fallout 3, t'avais des choix de dialogue et puis t'avais des choix de réponse qui étaient écrites. Ça amenait pas forcément la même conclusion par rapport à ce que tu disais à ton interlocuteur. Alors que là, dans Fallout 4, quoi qu'il arrive, ça va toujours être la même chose. Donc au final, autant ne pas mettre des choix de dialogue et puis mettre juste un dialogue simple, quoi. Comme on avait à l'époque des jeux PS1, t'avais une cinématique où les personnages parlaient. Là, tu peux le faire avec le moteur du jeu en temps réel. Mais au final, ça change pas grand-chose, quoi. Je pense qu'on va passer à autre chose. Moi, un autre truc qui me saoule beaucoup dans les jeux vidéo, c'est les quêtes FedEx. Donc, si vous êtes amateur
ça, on pourrait développer, hein.
Si vous êtes amateur de MMORPG, vous devez certainement connaître. Mais, le pire, c'est les quêtes FedEx dans les jeux solo, avec une histoire, etc., qui te demande d'aller tuer 10 lapins, hein, puis de revenir. Le genre de quête qui m'énerve le plus, c'est d'apporter une lettre d'un point A à un point B. Et que la personne te dise merci. Je crois qu'il y a rien de pire comme quête secondaire à proposer au jeu.
Bah, tu sais, il y a pire, hein. La quête qui te demande d'apporter la lettre à un point B. Mais en fait, la princesse est dans un autre donjon, donc il va falloir aller dans l'autre donjon. Mais en fait, il y a un autre truc à faire là. Et en fait, ça, c'est Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV, alors, je rappelle, c'est le jeu où quand même, à un moment donné dans l'histoire, tu dois faire une quête, les 7 saveurs d'Eosea, je crois, ou un truc comme ça. Et en gros, tu dois récupérer des ingrédients pour faire un super plat. Bon, déjà, à la base, c'est la quête FedEx qui te casse les couilles, tu vois. Mais en plus, il va falloir que tu voyages à l'autre bout du continent pour le faire.
Ah oui.
C'est pas genre, c'est à côté, tu vois. Et là, une fois que tu auras voyagé à l'autre bout du continent pour récupérer ces trucs, c'est pas un genre, tu vois, on va dire, ok, le machin, il est là. Non, non, non. Tu vas devoir d'abord rendre service à cette bande de connards. Pour qu'ils te disent comment récupérer les ingrédients que tu cherches.
Ouais.
Et à la fin, la cerise sur le gâteau, tu arrives avec tous les ingrédients que t'as récoltés et tu apprends que en fait c'est pour un repas avec deux officiels qui viennent rencontrer le baron local. Sauf que tu te rends compte que les deux officiels qui viennent rencontrer ce mec-là, ben c'est toi et ta pote.
Ok. Donc,
donc ça veut dire que t'as fait une quête interminable. FedEx, pendant 3 plombes, tout ça pour que les développeurs se foutent de ta gueule à la fin, en fait, parce que c'est exactement ça, quoi. C'est les mecs qui te disent « Ah, on t'a bien fait courir à le bout du continent, hein. Ah bah c'était pour toi.
» Mais moi, je pense que, tu vois, ce genre de quête où tu dois ramener une lettre à un personnage, le pire foutage de gueule que j'ai vu, c'est quand t'es un personnage, justement, te demande d'apporter un objet à quelqu'un, mais que cette personne, elle est dans le même village que lui, et elle est à peine 500 mètres, tu te dis, mais putain, mais pourquoi tu bouges pas ton putain de cul pour l'apporter toi-même, quoi? Et toi, comme tu veux la récompense, bah, tu l'as fait quand même. Mais tu te dis tout de suite, ah oui, c'est vraiment une histoire et sans intérêt, quoi. Tu vois, c'est le genre de truc, ça aurait pu totalement être squeezé dans le développement du jeu que, bah, au final, ça rapporte rien du tout, quoi.
Et finalement, ce problème-là, on pourrait l'élargir en disant, enfin, d'une manière générale, le remplissage, quoi. Parce que finalement, c'est ça, le FedEx.
Ouais.
C'est le remplissage. Et on pourrait élargir ça, je dirais même, à la durée de vie artificielle. C'est-à-dire qu'on te fait durer un jeu artificiellement. Tout ça parce que il faut absolument que le joueur en ait pour son argent, quoi, quelque part. Et c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal, tu sais, avec le discours sur « Oh mon Dieu, la durée de vie de ce jeu, c'est un scandale, etc. » Pour moi, la durée de vie, si un jeu est court, ce n'est pas un problème du moment que tu arrives à satiété. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le jeu, tu dis « C'est cool, j'ai joué peut-être, je sais pas, 5-6 heures. »
Mais
pour ces 5-6 heures-là, j'ai vécu une expérience qui a été intense. Et j'ai pas besoin qu'on me donne du rab, quoi, si tu veux.
T'as un jeu précis en tête à citer ou pas? Parce que moi, j'en ai un, là, pour le coup, c'est Brother Tale of Two Sons.
C'était celui-là que j'avais en tête.
moi, je trouve que, bah, pour le peu de temps qu'on a en jeu, bah, au final, je me dis que plus, ça va peut-être gâcher un petit peu l'expérience de jeu. Alors que là, en fait, si tu veux, le peu de temps que j'ai passé dessus, c'est quasiment parfait, en fait.
Mais tu sais qu'à une époque, je t'aurais pas tenu ce discours-là, parce que j'avais énormément de temps pour jouer. Et quand t'as énormément de temps pour jouer, tu te rends forcément moins compte de ce genre de problème. Alors j'en ai quand même pas mal, attention, mais si tu veux, je dois faire une sélection dans ce à quoi je joue, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Du coup, même si la mécanique est pas foncièrement déplaisante, dès que j'ai la sensation qu'on me fait du remplissage, je le vois tout de suite, en fait.
Ouais.
Et c'est pas forcément que la mécanique en soi est mauvaise. C'est juste que je vois bien que ça, finalement, ça n'était pas très nécessaire. Je vais prendre encore l'exemple des RPG, parce que c'est celui que je connais le mieux. Imaginons, t'as une quête qui est bien écrite, etc. Mais en termes d'impact que ça peut avoir sur ton expérience, tu te rends compte que c'est un impact qui est quasi nul, quoi. C'est-à-dire que finalement, ouais, cette quête, elle est peut-être pas mal écrite, mais elle ressemble quand même un peu à cette quête que j'avais fait avant. Mmh. Et je pense que beaucoup de RPG souffrent de ce problème, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas doser leur durée de vie. Il faut absolument remplir à ras-le-bord le couvercle, et je pense que ça dilue l'expérience, en fait. Typiquement, moi, c'est le problème que j'ai avec Xenoblade, à ceci près que Xenoblade, en plus, les quêtes sont très mal écrites.
Ah là, c'est encore un autre problème.
Non, mais en plus, quoi, tu vois,
ouais.
Il est extrêmement chronophage. Mais justement, tu vois, je suis arrivé à un stade dans Xenoblade où j'ai bloqué, en fait.
D'ailleurs, sur le forum du précédent podcast, il y a quelqu'un qui te demandait quand est-ce que ce fameux test de Xenoblade allait arriver.
courant février, si je le reprends. Parce que là, je t'assure qu'en fait, ce qui s'est passé dans Xenoblade et le problème que j'ai, c'est qu'il y a plein de trucs à faire et que j'ai un conflit intérieur, à savoir que par nature je suis complétionniste.
Oui, c'est un problème ça dans les jeux vidéo.
Voilà. Et que en ce moment je joue à deux RPG plus un RTS. Donc si vous voulez, à un moment donné il va falloir que je fasse des choix. Et là, Xenoblade, mon problème c'est que l'histoire principale n'est pas très intéressante. Tout l'aspect exploration est vachement intéressant, mais c'est un aspect qui est très chronophage, quoi, si tu veux. Et en plus de ça, t'as toutes ces quêtes à la con qui te permettent d'améliorer tes relations avec les autres personnages, parce que c'est un impact en termes de gameplay, en plus. Et d'un côté, je me dis, putain, mais il faut que je fasse ces trucs, et de l'autre, je me dis, non, mais en fait, c'est chiant, laisse tomber, quoi. Et du coup, je suis arrivé à un stade où vraiment, j'ai bloqué, quoi. Est-ce que je continue, ou est-ce que je trace jusqu'à la fin? Parce qu'il faut savoir que je suis à plus de 70 heures de jeu, là, quand même.
Ouais, donc,
et je suis loin d'en avoir vu le bout, quand même.
T'as quand même beaucoup joué. Mais donc, bah voilà, dénoyé Jérôme, tu as ta réponse. Donc, peut-être courant février, tu pourras écouter la critique de Tyran sur Xenoblade Chronicles. Moi, ce que tu dis, tu vois, par rapport à toutes ces quêtes, etc., bah, je vais encore citer The Witcher 3, mais cette fois-ci, pour lui taper un peu dessus, c'est toutes les quêtes de chasse aux monstres. En général, tu arrives dans un village, il y a un panneau avec qui est affiché, il y a une bestiole qui fait chier tout le monde, etc. Tu vas voir la personne qui va te dire, ouais, bah, il y a un spectre de midi qui est dans les bois, pourrait tuer, t'occuper de son cas, et donc tu négocies la prime, etc. Et puis, quand tu arrives, en général, il y a des taches de sang qui sont par terre, et tu utilises, en fait, ton sens de sorceleur pour suivre le chemin. Moi, si tu veux, en fait, sur le concept, je trouve l'idée de piste de créature vraiment bien faite, mais dans The Witcher 3, c'est un peu mal amené, dans le sens où c'est quasiment tout le temps pareil.
Bah, c'est un peu suivre la flèche, quoi.
Voilà, c'est fait. Ça. Et surtout que c'est quasiment le même schéma à chaque fois que t'arrives dans un village, tu viens, tu prends ta quête, et donc c'est, bah, comme on disait tout à l'heure, la routine. Par rapport à la durée de vie des jeux, je suis aussi d'accord avec toi, parce que quand j'étais plus jeune, bah, déjà, j'avais beaucoup plus de temps pour jouer. Et aussi, j'avais pas beaucoup de moyens pour m'acheter les jeux qui me faisaient envie. Donc, dès que j'avais un jeu, si tu veux, le saignais jusqu'à l'os, quoi. Je faisais quasiment tout. Par exemple, bah voilà, les Final Fantasy VII, quand j'étais petit, j'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus parce que, une fois que j'avais fini, j'avais pas d'autres jeux qui arrivaient dans le mois. Il fallait que je revende Final Fantasy VII pour acheter un autre jeu en occasion. Et c'est pareil pour GoldenEye. Je l'ai fait dans tous les niveaux de difficulté, si tu veux, à l'époque, parce que, voilà, j'avais pas 50 jeux sur ma N64. J'en avais peut-être 5-6 qui se battaient en duel. Mais une fois que j'avais fait le tour, bah, soit je demandais à des potes qui me prêtent des jeux, soit j'attendais l'anniversaire, etc., pour pouvoir m'en acheter un autre. Alors que là, aujourd'hui, j'ai les moyens d'acheter de plus en plus de jeux, puisque je travaille, j'ai un salaire. Mais au contraire, mon temps disponible par rapport aux jeux vidéo, ça s'est diminué. Et en plus de ça, j'ai d'autres activités annexes, etc. Donc, le temps de jeu, j'essaie de choisir les jeux qui me plaisent le plus. C'est pour ça que quand un jeu s'étale sur la longueur, ça me saoule assez vite parce que je me dis que voilà, c'est vraiment artificiel. Au bout d'un moment, ça devient juste des numéros. La quête numéro 1, 2, 3, 4. Et au final, ça apporte juste une heure de plus sur ta durée de vie. Mais tu t'en sors pas avec une expérience grandie. Ils devraient prendre en compte surtout que, voilà, ils savent très bien que l'âge du joueur moyen, c'est environ 30 ans.
Là où je voudrais nuancer, c'est que, enfin, pour moi, ils ne devraient pas penser en termes de cible d'âge, si tu veux. Moi, si un mec veut faire un jeu long, qu'il fasse son jeu long. Il faut qu'il soit intéressant, par
voilà,
contre.
Il faut que le jeu soit intéressant. Mmh. Si tu veux un jeu avec du contenu à foison, mais qui soit nul à chier, sans aucune écriture, sans aucune recherche, bah, moi, je pense pas qu'un gamin qui a du temps devant lui va kiffer plus que moi. Il va se dire, putain, mais c'est relou aussi. C'est pas parce qu'on va lui dire, il y a 500 coffres à ouvrir dans ton jeu, qu'il va être content, tu vois.
Tu sais, tout à l'heure, je parlais de suivre la flèche.
Ouais.
Et ça, c'est le, mais vraiment, s'il y avait un truc qui me pétait les burnes aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est ça. Alors, heureusement, il y a des jeux qui ont changé ça, mais quand même, il y a encore beaucoup, beaucoup de jeux où on te prend pour un putain de mongol et où on ne te laisse plus le plaisir de découvrir le jeu. C'est-à-dire qu'on va te prendre par la main et on va t'indiquer plein de trucs, plein de trucs. Je prends un exemple d'une série qui est mes fétiches, c'est les Elder Scrolls. Je suis un grand fan de Morrowind. Pourquoi ? Parce que Morrowind, c'est un jeu où tu as vraiment le plaisir d'explorer. C'est-à-dire que Morrowind, c'est le jeu où, on en parlait tout à l'heure, au hasard du détour d'une grotte, une caverne engloutie, tu vas découvrir une putain d'armure qui est enfermée dans un coffre. Et ça, pour la découvrir, cette armure, c'est... enfin. T'es tombé par hasard dessus, tu vois. Il y a jamais eu de flèche qui t'indiquait où aller trouver cette armure, etc. Je parle d'un jeu où, quand on te disait d'aller à tel endroit pour faire la quête, tu devais utiliser ton sens de l'orientation à toi pour trouver ce truc. C'était un gameplay en soi. C'est un exemple parmi d'autres qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans l'Elder Scrolls. Maintenant, un Elder Scrolls, c'est un jeu avec une flèche qui te dit où il faut aller, le GPS. Et pour moi, ça, c'est vraiment la quintessence du jeu assisté, quoi, en fait. C'est-à-dire que, en gros, on te laisse plus le droit de découvrir tes jeux. Il faut absolument que tu te tapes ces trucs assistés. Et quand bien même on te donne la possibilité de les désactiver, en général, t'as une expérience de jeu pourri parce que les jeux n'ont pas été conçus pour être joués sans, en fait.
Ouais.
Typiquement, dans les Elder Scrolls, à l'époque de Morrowind, on te disait « Suis telle route qui se trouve au nord-est, machin... » Enfin, tu vois, t'avais des indications. Là, aujourd'hui, dans un Elder Scroll, c'est « Fais cette quête-là dans telle grotte. » Ouais, mais elle est où, ta grotte? Je sais pas où elle est, putain, connard, elle est où?
Surtout qu'il y a 300 grottes à côté, quoi.
Alors, oui, effectivement, moi, j'aime bien chercher des trucs, hein. Mais il y a une différence, si tu veux, entre utiliser mon sens de l'orientation pour trouver une grotte et tourner en rond sur une map pendant 3 heures parce que je sais pas où est la grotte. Il y a quand même une subtilité. Dans un cas, t'as du gameplay, dans l'autre, t'en as pas, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi un problème où il y a trop de grottes, quoi. Enfin, t'arrives dans un endroit, tu sors d'une grotte, tu fais deux pas, il y en a une autre. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure.
Le caractère exceptionnel n'est plus là, en fait.
Voilà, c'est ça, exactement.
Ce n'est plus exceptionnel, ça devient banal. Et comme c'est banal, bah c'est chiant, quoi. Mais quand je parle de jeu assisté, entre guillemets, ça n'est pas exclusif au JRPG, hein, enfin au RPG. Le tuto obligatoire, tu vois.
Appuyez sur X pour montrer que vous avez bien validé.
Ce que je trouve dommage, c'est que t'as plus le plaisir de la découverte, quoi, en fait. On va t'expliquer toutes les mécaniques du jeu et après tu vas voir, ça va aller tout seul. Au lieu de te laisser, de manière organique, découvrir le jeu, il y a moyen, je pense, de faire des jeux accessibles qui ne soient pas pour autant des tutos géants où, une fois que t'as fini le tuto, on te laisse passer à la suite, quoi, quelque part.
Ouais, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la saga des Souls. C'est parce que En fait, si tu veux le tuto, il y a trois marques au sol. Il te dit appuyer sur rond pour faire une attaque simple, appuyer sur carré pour mettre le bouclier en évidence, enfin ce genre de choses là. Il y a deux trois messages et après le jeu il te dit plus rien. Mais vraiment plus rien du tout. C'est-à-dire si tu veux découvrir des mécaniques de jeu tout ça, il te laisse apprendre de tes propres erreurs. Alors que dans les jeux aujourd'hui, le tutoriel il dure déjà une plombe. Ils t'apprennent toutes les touches, appuyer sur X pour sauter, appuyer sur carré pour ouvrir le coffre, etc. Et puis, si vous voyez un ennemi qui est en rouge, et si vous lui tirez dessus avec un sort de feu, et il va brûler. Mais si vous voyez un ennemi en surbrillance, en blanc, et que vous utilisez le sort de glace, vous allez pouvoir le congeler.
Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher TH?
Après, il y aurait beaucoup de choses que j'aurais pu dire, mais bon, je pense que... Une dernière chose qui me saoule aussi, c'est... tous ces héros amnésiques dans les jeux vidéo.
Et pourquoi ?
C'est un peu facile, quoi.
Alors, je suis d'accord, c'est un cliché, c'est facile, mais si c'est bien amené.
Malheureusement, c'est pas toujours bien amené, c'est pas toujours amené de manière subtile. La plupart des jeux, j'ai l'impression qu'ils te disent que le héros est amnésique. Comme ça, une fois que tu joues au jeu, tu découvres l'histoire en même temps que lui. Tout d'un coup, il a la mémoire qui brille, et là... Ah ouais, mais en fait, toi, c'est vrai que t'étais pas gentil avec moi au début, et puis... c'est quelque chose qui... Moi, je pense, peut être mieux amené, quoi.
Ah, mais tu me parles de Planet Escape Torment, là, en fait. Planet Escape Torment, c'est justement l'exemple du jeu qui réussit à te montrer que tu es amnésique, certes, mais que t'as fait des conneries et qu'elles vont venir te rattraper, tu vois. Tu visites le monde, en fait, et à chaque fois, tu te rends compte que, ah, c'est peut-être moi qui ai fait ça, en fait. Et il y a plein d'indices comme ça qui t'indiquent, oui, mais c'est toi, Coco, qui a fait ça. Et c'est un jeu qui amène ça de manière vachement bien. Et t'as des compagnons aussi qui te suivent. Tu te rends compte qu'en fait, ils te connaissent très bien. Mais pourquoi ils te cachent ça? Oui, certes, t'es amnésique. Mais justement, l'amnésie est matière à développer plein de thèmes. Le fait que t'es amnésique, par exemple, ça permet de développer le fait que, ok, si ton personnage est amnésique, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi, tu vois. Et cette raison-là, elle a peut-être des tenants et des aboutissants qui sont autre chose que de la facilité scénaristique. Parce que c'est bien ça le problème, en fait. L'amnésie, souvent, c'est juste un prétexte.
Ouais.
Et ça, c'est très intéressant, parce que imagine un jeu, par exemple, tu joues à un amnésique, c'est un gros connard avant, tu vois. T'arrives dans un endroit, il y a tout le monde qui veut te tuer, tu sais pas pourquoi. Enfin, ça, je sais pas pour toi, mais c'est fort, ça, en termes de narration, quoi, tu vois.
Ouais, ou bien, un héros qui s'est volontairement fait effacer la mémoire parce que... Il a lui-même vécu d'autres expériences qui étaient traumatisantes et il voulait plus s'en souvenir, tu vois.
Ce qu'on dit, effectivement, j'ai bien conscience que pour un littéraire, ils disent « Oui, mais bon, ça, on l'a vu 3000 fois dans la littérature, c'est bon. »
Ouais, ou au cinéma
aussi.
Oui,
sauf que le fait de le jouer toi-même, tu vois, ça a un autre impact quand même.
Ouais.
Ça te fait quand même bizarre, tu vois, d'arriver dans une auberge et que dans l'auberge, t'as un mec qui t'enfonce un couteau et que tu sais pas pourquoi.
Par exemple, moi, dans Lost Odyssey, un JRPG qui était sorti au tout début de la Xbox 360, il y avait ce héros, Kane, qui est à la base un immortel. Il est amnésique. Ses souvenirs, ils étaient comptés à travers un livre. Il a vécu différentes époques. Il a eu beaucoup de familles. Sur ce jeu-là, en tout cas, c'est... Moi, je trouve que le travail a été fait, quoi.
Ah, ça, c'est un cas où on va pas être d'accord, ATH.
Par rapport à ce jeu-là?
Ah oui, moi, j'ai détesté Lost Odyssey.
Ah, mais je vais t'expliquer pourquoi. Par rapport au sujet de l'amnésie ou en termes de gameplay? C'est pas pareil.
De la manière dont c'est amené, en fait. Parce que je suis d'accord que les phases d'amnésie, de mémoire, sont très bien écrites. Il y a même des moments où j'ai chialé, hein, je le dis tout net. Mais par contre, c'est tellement mal intégré au jeu, putain. Mais c'est tellement mal intégré au jeu. Enfin, je veux dire, un jeu où tu te balades comme ça, et où d'un coup, on te fait popper un truc qui n'a rien à voir avec le jeu, en fait. Enfin, j'avais pas l'impression, si tu veux, de voir la mémoire du personnage que j'étais en train de jouer. J'avais l'impression de lire un bouquin.
Oui, c'est exactement ça, en fait.
Parce que du coup, moi, le personnage principal dont j'étais censé m'attacher, mais j'en avais rien à foutre. Et pourquoi je n'en avais aucun attachement? Parce que comme ces trucs-là avaient l'air d'être complètement déconnectés du jeu, si tu veux, moi, j'avais pas l'impression de voir la mémoire de ce type-là, quoi. C'était un truc comme ça, qui était très émouvant à lire et tout. Mais par contre, une fois que je revenais en jeu, je trouve qu'il y a, déjà, il y avait une dichotomie entre la qualité d'écriture de ces phases-là et la qualité d'écriture du jeu en lui-même. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un jeu, certes, qui est très bien écrit dans ces phases-là, mais qui est vachement mal écrit sur tout le reste. Les personnages, la mise en scène, ça me sortait par les yeux. Il n'y avait rien qui me revenait dans ce jeu, en fait. Sauf les phases de flashback. Mais comme elles sont pas intégrées, j'avais pas l'impression que ça faisait partie intégrante du jeu.
Je pense que t'aurais préféré que tu vois une cinématique qui te raconte cette histoire-là plutôt qu'un livre.
J'aurais préféré jouer. c'est celle-là.
Ouais, mais enfin, je veux dire, parce que, enfin, si c'est un truc bien écrit, etc., ça aurait été plus judicieux, je pense, de la part des développeurs, de mettre des scènes cinématiques qui te racontent, si tu veux, entre un truc rapidement.
Non,
quoi,
non, non, attends. Moi, j'aurais vraiment préféré qu'on me fasse des flashbacks où c'est moi qui joue.
Oui, mais
c'est un jeu vidéo,
des
bordel.
Fois, enfin, des fois, dans des scènes, t'as pas forcément de gameplay à y mettre. Quand il est avec sa famille, etc., enfin, c'est pas forcément fun à jouer. Enfin, voilà, ça justifie pas pour moi de mettre du gameplay à ce moment-là.
Oui, mais justement, pour moi, c'est de la paresse de développeurs qui, plutôt que de chercher à comment exploiter le média en lui-même, va chercher à rentrer au forceps un autre média dedans. Alors certes, ce média est très bien écrit, il est très bien fait, mais pour moi, c'est complètement déconnecté de l'expérience du jeu, en fait.
Non mais là sur ce point-là je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour ceux qui savent pas en fait ces phases de souvenirs stoppent totalement l'action du jeu. On a un livre qui apparaît sur l'écran, tu dois défiler les pages etc. et tu lis au fait si tu veux au fur et à mesure. Où je te dis que je trouve que c'est très bien traité, c'est dans la qualité d'écriture de justement de ces phases-là. Je ne mets pas en cause le fait que ça soit un livre qui apparaît sur l'écran. J'aurais préféré acheter le jeu et puis acheter le livre séparément quoi. Après le problème c'est que en jeu c'est pas justifié, genre préférais moi de ce point de vue là soit d'avoir une scène cinématique qui est forcément plus intégrée aux médias du jeu vidéo où tu vois ce qui se passe que une phase où c'est ou un livre qui est figé, alors que j'aurais préféré comme je te dis avoir un livre physique entre les mains, tu vois, quitte à choisir.
Ouais, mais moi en fait ce que j'attends vraiment du jeu vidéo, je pense qu'il y a moyen de mettre du gameplay dans ces phases là en fait. Et ce que je trouve dommage à chaque fois, c'est qu'on utilise la facilité de la cinématique et que finalement, on se creuse pas la tête comme un browser qui, par le gameplay, va te faire passer un truc. Le jeu exploite de manière quasi viscérale le fait que dans le jeu vidéo, tu as ce lien avec la manette. Il exploite vraiment ce côté tactile où t'as tel stick qui représente le grand frère, tel stick qui représente le petit frère, et qui, à la fin, te fait un truc qui est du pur gameplay et qui pourtant te fait passer un truc, quoi. Lost Odyssey, je pense que c'est un jeu auquel j'aurais pu vachement accrocher si derrière, il y avait eu ça, quoi. Parce que du coup, j'aurais dit, ok, ça, c'est ce personnage-là, quoi. Et je suis pas sûr, tu vois, que le fait de mettre des cinématiques aurait... Alors, ça aurait été mieux, je pense, parce que ça... tu gardes quand même le côté visuel et ça reste cohérent, si tu veux, avec le média, quoi. Sur ce point-là, je pense que tu as raison. Et je pense qu'il y a une étape au-dessus et qu'on n'y est pas encore arrivé, malheureusement, quoi.
Ouais, bah, après, moi, si tu veux, une scène... Je parle de cinématique parce que comme c'est le cas d'un flashback, je trouve ça plus cohérent en termes de mise en scène par rapport à ça. Un truc qui soit assez court, mais que tu comprends dans les grandes lignes, quoi. Je pense qu'on va conclure rapidement, mais je voulais juste évoquer une dernière chose, si tu me permets, avant de finir.
Oui.
C'est tout ce qui est justement en termes d'histoire dans n'importe quel jeu. Tu récupères beaucoup d'audiologues qui te raconte les histoires des personnages, etc. Et moi, c'est un truc qui m'énerve, en fait, parce que BioShock l'a amené à l'époque, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que chaque personnage dans Rapture se baladait avec un microphone et enregistrait toutes ses conversations comme ça. Je serais tombé sur quelques audiophones, ça m'aurait pas trop dérangé, mais j'aurais préféré aussi, je sais pas, trouver des écrits, des vidéos. Les audiologues, c'est un peu une facilité. Ou bien, je peux citer ça aussi, mais dans d'autres jeux qui n'utilisent pas les audiologues parce que ça se passe par exemple à des époques moyenâgeuses, mais il y a beaucoup de documents qui sont écrits. Et alors justement, ils utilisent pas trop l'environnement. Le fait que ça soit écrit à chaque fois, je trouve que c'est une solution de très grande facilité.
Oh là, je sens le fan de Dark Souls qui parle là. Je sais pas pourquoi.
Non, c'est pas, enfin.
Parce que tu admettras que Dark Souls c'est quand même un jeu qui raconte beaucoup de trucs de manière détournée, que ce soit par les décors.
Oui, oui, c'est vrai que.
Que ce soit par les objets, dont tu vas lire la description, ce genre de choses.
Voilà. En fait, moi, j'aurais bien aimé. Que tu trouves pas que dans un type de jeu que des documents. Alors, 4 jours avant l'épidémie, voilà, je suis dans ma chambre, il fait nuit, j'entends des bruits dehors, mais heureusement que papa est là. Deuxième jour, les bruits sont de plus en plus menaçants. Et après, au bout d'un moment, tu vois, genre, dernier jour, j'entends vraiment les bruits qui se rapprochent de plus en plus, et tu vois, genre, point d'interrogation, tu comprends qu'elle s'est fait tuer, mais, enfin, je veux dire, t'entends des bruits chez toi le soir, tu vas pas forcément écrire un manuel de ce que tu fais. Il y a une idée qui est bonne à la base, mais le fait que ça revienne à chaque fois pour un jeu, ça annule toute crédibilité pour moi de l'univers, en fait.
Ça me fait penser à un petit jeu auquel je jouais récemment où t'avais un truc comme ça qui m'avait fait rigoler. T'as des mecs, tu vois, ils explorent, ils écrivent un journal. Bon, à la limite, admettons. Pourquoi pas, hein, c'est possible que le mec tienne son journal
de bord.
Mais ce qui est très ridicule, par contre, c'est quand tu arrives à la fin, que le mec est mort, et que quand il est en train de crever, tu vois, il continue d'écrire sur son journal pour dire ce qui s'est passé, tu vois.
Ouais, bah voilà, ça c'est encore une marque de voilà, c'est une marque de fainéantisme sur la narration. Et je voudrais citer aussi un autre exemple qui m'a...
Bon, après, c'est pas du tout le cœur du jeu, etc. Ouais, mais c'était juste pour illustrer qu'il y a des jeux qui font ça, quoi.
Ouais, enfin, bah moi, je vais te citer, si tu veux, un jeu qui m'a fait rire aussi, c'est Castlevania Lord of Shadow. Bon, c'est un beat'em all, hein. Donc on est d'accord que l'histoire, si tu veux, a pas son second plan dans ce genre de jeu là. Mais bon, en fait, à chaque fois, si tu veux, il y avait des paladins qui étaient allés détruire le mal avant toi, et ils sont tous morts sur le chemin, tu les vois, ils sont tous par terre. Et les mecs, avant de mourir, ils ont tous écrit une putain de lettre quand même. Oui, ma tendre Anna, je t'aime, etc. Mais je sens que je ne vais pas pouvoir avancer. Ou bien le mec, il écrit quand même qu'il s'est fait croquer le bras par une créature, tu vois. Et bon, il a écrit avant de mourir, il a quand même eu le temps d'écrire avec son autre main qu'il allait crever, quoi.
Ouais, mais ça, j'ai envie de dire, ça relève un problème qu'on a d'une manière générale avec la mise en scène dans le jeu vidéo, quoi.
Ouais.
On maîtrise pas encore tout à fait les codes de notre propre média, en fait. On teste des choses de manière un peu maladroite et ça en fait partie, quoi. Bon. ATH, je te propose qu'on s'arrête là.
Ouais, je pense qu'on...
Ça me paraît être une belle conclusion.
Ouais.
Alors, j'ai bien conscience que c'était un podcast qui était un peu foutraque. Et il va falloir qu'on réfléchisse à la formule. Parce que là, déjà, je pense qu'on avait un problème, c'est qu'on n'était que deux.
Ouais.
Du coup, quand il y avait quelqu'un qui avait pas forcément quelque chose à dire, il y avait pas forcément un retour derrière, etc. Ça, je m'en suis rendu compte à plusieurs moments de ce podcast, parce qu'il y a plusieurs moments, en fait, il avait dit ce que j'avais envie de dire, donc j'avais pas grand-chose à rajouter. Et je pense qu'avoir un troisième point de vue, voire même un quatrième, ça peut créer une conversation qui est beaucoup plus riche, en fait.
Ouais, en tout cas, c'est comme on l'a dit, c'est un épisode pilote. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours pour savoir si c'était bien ou si c'était tout pourri.
Chiant.
Ouais, parce que voilà, si c'est pourri, on va pas.
N'hésitez pas.
Hein. On va pas proposer quelque chose de justement de similaire. Mais en tout cas, si vous êtes nombreux à dire que voilà, vous avez apprécié cette formule-là, bah on sera retenté de le faire à plusieurs reprises.
De toute façon, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on a un sujet là qu'on veut absolument faire avec Ben. Au moins celui-là, ça c'est sûr, on le fera celui-là. Après, voilà, c'est un test, on verra pour la suite.
Ouais, mais en tout cas, vos retours sont importants pour justement savoir si on est sur la bonne pente ou pas.
Voilà.
Merci à vous.
Allez, merci pour tout, à la semaine prochaine, jouez bien, ciao à tous.
Salut.